Now.
C'est le livre d'un poète chinois. Revenu de l'enfer des prisons et des laogai, l'équivalent du goulag soviétique, après avoir été condamné par le parti pour activité contre-révolutionnaire, son crime, avoir écrit un poème annonçant les massacres de Tiananmen, un poème qui commençait par ces mots. Le grand massacre commence par le cœur de Pékin. Quand le premier ministre s'enrhume, le peuple tousse, la ville vient d'être fermée, puis bloquée et enfin assiégée. La machine d'État de ce vieux pays malade n'a plus de dents pour broyer le peuple qui résiste et voudrait lui échapper. Pas l'ombre d'une arme entre leurs mains et pourtant ils sont des milliers tombés à terre. Les assassins professionnels, eux, arborant fer et cuivre, nagent dans une mer de sang. Un incendie criminel ravage notre maison. Ils ne tremblent pas d'essuyer leurs bottes de cuir aux jupes des filles mortes. Lors d'une soirée organisée la semaine dernière par son éditeur au Palais de Tokyo à Paris, Robert Badinter lui-même a déclaré que ce livre prendra sa place parmi les grandes œuvres de la littérature carcérale dans la lignée de Solzhenitsyn et de Dostoïevski. Car après des années de péripéties, son témoignage paraît aujourd'hui en français. Ce qu'il y raconte et ce qu'il décrit relève tout bonnement de l'insoutenable, comme le furent les œuvres de ceux qui l'ont précédé dans cette tentative de dire ce que l'on ne veut pas entendre. À cette différence près, que même si 20 ans ont passé, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Le régime politique qui l'a condamné, même si le pays a changé, est encore en place. Bonjour Liao Yiwu et bienvenue à la Grande Table. Votre livre s'appelle « Dans l'Empire des Ténèbres ». Il a été traduit sous la direction de Marie Holzmann, qui est aussi avec nous et que je salue. Bonjour Marie Holzmann.
Bonjour.
Avec Gao Yun et Marc Rimbourg. C'est un livre qui a paru aux éditions François Bourin, éditeur, avec une préface de vous, Marie Holzmann, et une postface d'Herta Müller, qui est prix Nobel de littérature. Elle l'a reçue en 2009. Herta Müller, qui est allemande, l'Allemagne est le pays que vous avez choisi de rejoindre l'année dernière, Liao Yiwu, après avoir fui la Chine. Et je tiens à remercier très chaleureusement notre interprète, Yaya Chang, qui est avec nous parce que je crois que c'est une preuve de courage qu'elle fait aujourd'hui à venir traduire les propos simultanés de le Liao Yiwu, puisqu'on a eu un peu de mal à trouver un interprète qui acceptait de venir traduire les propos pour cette émission. Liao Yiwu, le livre est reçu ici, en France, à la fois comme un choc et comme un véritable événement. Peut-être d'ailleurs, comme le fut en son temps, l'archipel du goulag de Solzhenitsyn dont vous parlez beaucoup dans l'Empire des Ténèbres. Est-ce que c'est une revanche positive pour vous sur toutes ces années de solitude, de silence, d'enfermement et d'abandon ?
L'écriture de ce livre, c'est un souvenir. Cela m'a permis de guérir de toutes ces années de souffrance de prison. C'est un travail que je dois faire moi-même. Personne ne peut m'aider. Donc c'est aussi un livre de témoignage, un témoignage de l'histoire. À part cela, c'est aussi un livre qui m'a permis de guérir.
Un livre qui vous a permis de guérir et qui a été écrit à quel moment ? Parce que votre expérience dans les prisons chinoises, Liao Yiwu, date de 1990 à 1994. Quand et comment avez-vous commencé à écrire ce livre ?
En 1994,
à ma sortie de prison, je me suis mis tout de suite à écrire ce livre. À ce moment-là, je me sentais abandonnée par la société. Ma femme a demandé le divorce. Mes amis m'ont abandonnée aussi. Tout le monde m'évitait comme de la peste. La personne que je vois le plus souvent, que je voyais plus souvent à l'époque, c'est un policier. Et j'étais chez mes parents, je ne pouvais aller nulle part. Donc ce livre m'a aidée.
C'est pour cela que vous dites que c'est les policiers qui connaissent le mieux votre œuvre aujourd'hui, parce que, enfin, ce livre en particulier, parce que vous l'avez écrit, il a été confisqué par la police qui vous surveillait à l'époque, vous l'avez réécrit, il a été à nouveau confisqué, donc ça veut dire que les services de police ont passé de nombreuses heures à le lire, voire à l'apprendre, pour savoir ce qu'ils allaient laisser ou ce qu'ils allaient enlever. Et donc c'est une raison pour laquelle, avec humour, avec ironie, vous dites aujourd'hui que ce sont eux, les policiers, qui connaissent le mieux votre travail à Hollywood.
Oh, c'est vrai, ces policiers, ils ont en fait essayé de m'aider, de trouver une solution pour moi, parce qu'ils voyaient en moi quelqu'un de très têtu. Ils m'ont conseillé d'ouvrir une boutique de pantalons, ils ont même trouvé le local de mon magasin. Et moi, je ne savais pas comment faire ces affaires. Les policiers m'ont aidé à trouver un endroit, un marché noir, qui pouvait me permettre de réaliser des bénéfices plus larges. Donc, ils ont vraiment essayé de m'aider. Et moi, j'ai refusé. Et il était vraiment très fâché. On a failli se battre. Finalement, je n'ai pas fait le commerce de pantalons, je me suis mise à écrire. Un an après, le même policier qui était mon ami, il a confisqué mon manuscrit.
Vous dites que c'est un livre de souvenirs. Comment avez-vous travaillé avec la mémoire? On lit beaucoup dans ce livre, dans l'Empire des Ténèbres, une souffrance qui a trait au corps, c'est avant tout dans votre corps que s'est passée la souffrance. On pense évidemment au nombre de tortures que vous avez subies. Mais est-ce que cette mémoire corporelle a pu faire rejaillir une mémoire des mots? Parce que, évidemment, il est dans votre travail un travail de recréation des dialogues. Vous n'aviez pas, à ce moment-là, quand vous étiez en prison, de quoi prendre des notes suffisamment dans votre cellule pour pouvoir noter. Donc c'est un travail de recréation de la mémoire. Quelle est la part de reconstitution? Quelle est la part de souvenirs très précis que vous avez de toutes ces années?
La première fois que j'écris le livre, j'avais beaucoup d'imagination. J'étais très en colère. J'écrivais passionnément, c'était la première fois, le premier manuscrit. La deuxième fois, c'est après la confiscation, après avoir perdu le premier manuscrit, j'étais vraiment très triste. J'avais peur d'oublier. Cependant, cette deuxième création m'a permis de me rappeler beaucoup de choses. Après que le deuxième manuscrit soit confisqué, j'ai éprouvé de nouveaux sentiments. En fait, l'écriture a duré des années. J'ai eu le temps de mieux réfléchir. Mais pour moi, le premier manuscrit était toujours le meilleur. Maintenant, je pense que le dernier manuscrit qui correspond mieux à la réalité, parce que j'étais plus mûre. Et l'écriture de ce livre m'a permis aussi de renforcer ma capacité de mémoire. C'était une grande aide pour moi.
Vous parlez, Liao Yiwu, de réalité. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous décrivez, et on va venir au cœur de ce livre, est de l'ordre de l'indicible, de l'insoutenable, de l'impensable, pour des lecteurs européens, qui plus est? Je pense à la phrase de votre ami Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, encore emprisonné aujourd'hui, qui dit à propos de votre livre qu'il a pu lire « Aucun homme ordinaire ne peut imaginer l'horreur des conditions de détention ». Est-ce que vous êtes préparé à faire face au scepticisme, parfois même, de ceux qui vont lui demander quelle est la part d'authenticité de ce témoignage?
Je raconte ce que j'avais vécu. Cette activité, l'écriture de ce livre, a bouleversé mes idées pour la littérature.
Mais maintenant, je suis un conteur. En fait, je raconte ce que j'avais vécu. Quand j'écrivais ce livre, je n'ai pas pensé qu'un jour, un lecteur écrivain, lecteur occidental, lirait mon livre. À cette époque-là, je n'ai pas pensé au sentiment de lecteur. C'était vraiment pour moi que j'ai écrit ce livre.
Marie Holzmann, vous, la première fois que vous avez découvert ce manuscrit, dont vous avez, je rappelle, œuvré à la traduction, comment avez-vous réagi ?
Bien, c'est un livre, comme vous dites, qui est vraiment insoutenable. Et à certains moments, on se demande comment les êtres humains peuvent se comporter comme ça entre eux. On a l'habitude de dire que les animaux ne feraient pas des choses pareilles. Et en même temps, on connaît la noirceur de l'âme humaine. Donc je ne peux pas dire que c'était une énorme surprise, d'autant plus que je connaissais son écriture. Et c'est vrai qu'il a approché ce roman un peu par le biais. Il a d'abord publié une série de portraits qui sont inspirés de ce séjour. Donc j'ai retrouvé dans ce livre des traces du premier ouvrage que j'avais traduit, Dans l'Empire des Bas-Fonds, qui en chinois est une enquête auprès de la société d'en bas. Et c'était très amusant de voir l'évolution littéraire justement de son écriture à travers ces deux ouvrages.
Il y a une évolution littéraire à travers ces deux ouvrages, mais il y a aussi une alternance. Il y a deux types d'écriture dans l'Empire des Ténèbres, Liao Yiwu. Je pense à cette alternance de passages documentaires et de moments de nature plus poétique. Herta Müller, qui signe donc la préface, écrit que par la force de votre langue, vous devenez froid comme un museau et chaud comme une peau. Et elle ajoute, ce mélange ne vrille pas seulement la tête, il pèse sur l'estomac. Avez-vous pensé, en écrivant ce livre, avec tout ce que ça représentait de réveil, encore une fois, de la mémoire de ce que vous aviez vécu, des souffrances, puisque vous décrivez des moments de torture qui sont, encore une fois, insupportables, que votre écriture pouvait, de temps en temps, s'échapper par la poésie? Vous êtes un poète, à la base. Donc, ça vous permettait de vous évader par l'écriture, par la poésie, de cet implacable documentaire que vous nous donnez là.
Oui, dans mon livre, il y a des passages un peu poétiques, mais ces passages ne venaient pas de mon parcours comme poète. En fait, je pense que ces éléments poétiques venaient d'un maître musicien que j'ai rencontré en prison. C'est lui qui m'a appris à jouer la flûte. Il m'a dit que nous sommes dans une prison. Voilà, nous sommes enfermés ici, tandis que les gens à l'extérieur, ils sont aussi en prison, mais une prison sans mur. Donc l'essentiel, c'est de trouver la liberté à l'intérieur de soi. Alors il faut que tu saches, il m'a dit que tout le monde vit dans une sorte de prison.
L'autre aspect de votre écriture qui peut frapper quand on lit votre livre, Liao Yiwu, c'est la dimension bestiale, la déshumanité qui ressort du traitement que vous avez reçu et la façon dont votre livre plonge la plume aussi loin que possible. Dans les poux, la laine, la vermine, les latrines, la morve, le sang, la merde. Vous écrivez à un moment dans ce livre, la devise de mon écriture peut se résumer à ceci, les soies du porc poussent sur la peau des cocons. Pour comprendre quelque chose avec profondeur et certitude, il faut te coller à la bête comme une mouche à merde. Est-ce que ça veut dire que seule la trivialité laisse entrevoir quelque chose de la vérité de la captivité?
Quand je montre cette laideur dans mon livre, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est plus vicieux que cette laideur. Ça veut dire en prison, quelquefois les gens commencent à perdre l'humanité. C'est quelque chose qui est lié à la spécialité de la région, c'est-à-dire à la nature des gens de cette région. Cet humour qui permet d'oublier la souffrance dans la douleur. Donc, quand j'étais en prison, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont perdu la capacité de compatir. Et tout le monde était content de voir quelqu'un d'autre être torturé.
Voilà, c'est la règle de prison. Il faut être violent, féroce. Moi, j'ai aussi eu des tentatives de suicide. Je me suis cogné contre un mur. J'avais la tête en sang. Mais personne n'a eu de compassion pour moi. Tout le monde venait voir ma tête. Ils disent que voilà, tu es vraiment un acteur né. Tu as vraiment tous les effets que tu as souhaité. Tu as bouleversé la prison, mais tu n'es pas mort. Serdam m'a même dit que si tu veux vraiment mourir, tu ne feras pas tous ces bruits, tu n'auras pas fait tout ce cinéma. Tu trouveras un endroit tranquille, calme. Tu te cognes contre un objet pointu. Comme ça, tu seras mort sur le champ. Dans ce cas, tu nous laisseras tranquilles au lieu de déranger tout le monde. Moi, je n'arrivais pas à comprendre comment ça se fait que les gens puissent être à ce point cruels, que les autres puissent se moquer de ma tentative de suicide. Voilà, j'avais du mal à croire tout ça.
Et c'est tout ça qu'il fallait montrer dans ce livre, qu'il fallait rapporter dans ce livre, y compris tous les détails des tortures. Alors, vous racontez que quand vous arrivez, presque le premier jour, je crois que c'est le premier jour, on vous montre le menu, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, le menu qui est administré par les chefs de la cellule et qui a pour nom les 108 herbes rares de la montagne des Pins, qui correspondaient à l'endroit où vous étiez. Quelques exemples, juste pour que les auditeurs se rendent compte. Je ne vais pas insister parce que c'est vraiment très dur. Le ragoût de groin de cochon, autrement dit l'exécutant, écrase les lèvres du détenu entre deux baguettes. Les pastilles pour la gorge, l'exécutant frappe le détenu à la pomme d'Adam avec le tranchant de la main. Le mapo tofu, des grains de poivre qu'on met dans l'anus. Ou encore un dernier, le menton de cochon rôti, l'exécutant administre un uppercut au détenu pour lui briser les dents. Autant de marques de la déshumanisation dont vous faisiez preuve dans les différentes prisons où vous êtes passé, puisque vous êtes passé par différents centres de détention, il fallait, pour le lecteur et pour vous, consigner tout ça, rapporter la cruauté, rapporter les détails, aussi insoutenables soient-ils, pour vous en libérer.
Je n'ai pas pensé à tout ça quand j'écrivais le livre. La seule chose que j'ai pensé, c'est que je voulais noter tout cela. C'est-à-dire, il dit que si jamais personne ne veut lire mon livre parce qu'il est trop cruel, il est trop cru, au moins il sera gardé quelque part dans les archives. Un jour, quand le Parti communiste chinois n'existe plus, quand ces années, cette histoire sera révolue, au moins on trouvera une trace de cette histoire. C'était mon souhait, c'est-à-dire témoigner pour cette histoire.
Oui, Marie Osman.
Oui, si je peux me permettre, je pense aussi que c'est une réaction très naturelle d'un citoyen conscient de la nature de son propre régime. Or, le régime communiste chinois a pris un soin énorme à effacer toute la mémoire du peuple. Tout ce qui s'est passé en 58-61, qui a quand même fait 40 millions de morts de faim, n'est pas consigné nulle part. Aucun enfant chinois ne l'apprend. Tout ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle, les massacres, il y a eu près de 2 millions de gens qui ont été massacrés et des centaines de millions de gens qui ont été torturés. Tout ça, c'est complètement oublié, gommé. Et Liao Yiwu a reçu une éducation, je dirais, normale de ses parents. Et son père le mettait en garde. Il lui disait, tu connais pas ce que c'est que ce régime. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais quand son père parlait, il ne le croyait pas. Donc au moment où il est entré dans la prison, il était d'une innocence quasi totale. Il ne connaissait ni la nature des prisons chinoises, évidemment, mais ni la nature du régime chinois, proprement dit. Donc c'est aussi une réaction très, très forte à cette tendance qu'a le régime de toujours tout effacer.
Yao Yiwu, innocence, a dit Marie Holzmann, pour qualifier le moment où vous êtes entrée dans cette prison. On pourrait ajouter insouciance, parce qu'en fait, vous racontez dans la première partie de votre livre votre vie d'avant, une vie plutôt joyeuse, dissolue, décadente même, dites-vous. Vous étiez une bande de poètes un peu fous, beatniks même, dans les années 80. Assez macho, il faut bien le dire, et assez indifférent à la politique. Et c'est, je lisais au début de cet entretien, le début de votre poème, ce poème qui s'est intitulé « Massacre » et qui est un texte prémonitoire parce qu'il a été écrit que quelques heures avant le massacre de la place Tiananmen. C'est ce poème qui a mis le feu aux poudres, mais presque malgré vous, vous n'étiez pas un dissident avant de découvrir les geôles chinoises.
Oui, en ce moment-là, je vivais dans une petite ville. Il y avait beaucoup de policiers dans la rue, on n'a jamais vu ça. Des policiers armés, c'est la première fois que je voyais ça. J'avais un ami canadien, il était chez moi. Il écoutait la BBC, donc... Il m'a informé de ce qui s'est passé à Pékin, l'entrée à Pékin des chars de l'armée. C'était dans la journée du 3 juin 89. Donc, après avoir appris tout ça, j'ai écrit le poème « Massacre ». Mais c'était une réaction naturelle. Effectivement, quelques heures après, il y a eu le massacre de Tiananmen. Et cette nuit-là, il y a eu peut-être 2000, 3000 de morts. L'armée a ouvert le feu sur la masse. Je pense que même Mao Zedong n'aurait pas pu faire ça. Il n'y a que Li Peng et les dirigeants de l'époque qui sont capables de faire une chose pareille. À l'époque, de Mao, la Chine était fermée. Mais en 89, la Chine était déjà ouverte. J'étais sidérée de voir un massacre dans une Chine ouverte devant tout le monde. Mais maintenant, beaucoup de gens l'ont oublié. Même le monde occidental a aussi oublié cette histoire.
On a oublié aussi en Occident pour vous.
Oui,
mais vous avez oublié, facilement oublié cette histoire liée à la Chine. Cependant, vous avez de très bonnes mémoires pour votre propre histoire, l'invention allemande, l'invention nazie de Paris, l'occupation nazie et la libération de Paris par De Gaulle. Et vous vous souvenez aussi des histoires comme l'histoire de l'Union soviétique. Mais je ne comprends pas pourquoi vous oubliez si facilement l'histoire chinoise. Est-ce que les Chinois sont inférieurs que les Occidentaux? Est-ce que la souffrance des Chinois est plus facile à oublier? Donc je pense qu'il y a une valeur universelle que n'importe où dans le monde on doit se souvenir de cette histoire douloureuse.
Vous parlez des soviétiques, on pourrait parler des écrivains qui vous ont précédé dans cette expérience absolument terrible qu'un être humain peut avoir à vivre. Dans l'émission à laquelle vous avez participé sur France Culture il y a deux jours, Le Grain à Moudre, Liao Yiwu, l'invité Nicolas Vert rapportait une discussion entre Chalamov et Solzhenitsyn après l'expérience qu'ils avaient vécue. Et il disait, Nicolas Vert, que Chalamov disait qu'on ne pouvait rien tirer de positif d'une expérience comme celle-là, alors que Solzhenitsyn avait tendance à penser, à espérer que l'écriture était quelque chose qu'on pouvait tirer de positif. Est-ce que vous pensez plutôt comme Chalamov ou plutôt comme Solzhenitsyn?
Je suis entre les deux. Je ne suis pas aussi optimiste que Solzhenitsyn. Parce qu'à l'époque, tout le monde était terrorisé par le communisme. À l'époque de Solzhenitsyn, c'était dans le vent, on peut dire, parce qu'il y avait cette terreur du communisme. Donc son livre a été accepté facilement, rapidement, alors que maintenant, le temps a changé. La Chine est devenue une puissance économique et le monde occidental fait des affaires avec les Chinois. On a tendance d'oublier que la personne avec qui on serre la main était pensée pour eux de la place Tiananmen, ou alors leurs parents, leurs frères, leurs pères étaient des bourreaux. Donc maintenant, ça ne dérange plus personne de faire les affaires avec les anciens bourreaux. Alors qu'à l'époque de Solzhenitsyn, il y avait quand même un consensus général qu'il y avait cette opposition vis-à-vis du communisme. Donc c'était plus facile pour lui de se faire connaître, de faire connaître son livre. Alors que maintenant, les choses ont changé. Donc j'étais étonnée qu'il y ait toujours autant de personnes qui s'intéressent à mon livre. Mais pourquoi j'accepte ces interviews avec une telle patience? Je répète toujours la même chose. C'est parce que j'apprécie beaucoup cette liberté de presse et liberté d'expression.
Vous parlez justement de la Chine d'aujourd'hui, Liao Yiwu, la prison que vous décrivez, la hiérarchie que vous décrivez dans la prison. Vous le dites que c'est une métaphore de la société chinoise. Ça, c'était vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup d'argent et vous dites que la Chine s'est transformée en un véritable marché. C'est vrai qu'en 20 ans, on a parlé du boom de l'économie chinoise et que l'Occident regarde la Chine uniquement avec ses yeux-là, la plupart du temps. Est-ce que ce que vous décrivez malgré tout dans votre livre, même si vous n'y vivez plus, vous n'êtes parti qu'il y a qu'un an, est-ce que ce que vous décrivez est encore vrai? En particulier, on a annoncé le démantèlement des camps de rééducation par le travail en 2013. On entend dire qu'il n'y a plus de prisonniers politiques quand on pense à votre ami Liu Xiaobo ou quand on pense à votre autre ami Li Bifeng que vous avez rencontré en prison. On peut être en droit d'en douter, bien sûr. En dehors de ce pays comme un pays uniquement tourné vers l'argent, que diriez-vous des changements de ces 20 dernières années ?
En 1989, à cause de l'événement de la place Tiananmen, beaucoup de gens sont entrés en prison ou étaient emprisonnés. Parmi ces détenus, il y avait beaucoup de gens comme moi, des intellectuels ou des poètes et écrivains. Nous savions à l'époque que nous allions passer quelques années en prison, mais on ne courait pas le risque d'être condamné à mort. Cependant, après le printemps arabe, les choses ont changé. Le régime a serré la vis. Il y a beaucoup de disparitions. Si la Chine veut devenir la Chine d'aujourd'hui, c'est parce que le régime est très puissant. Le communiste chinois sait très bien gérer la situation. Il sait acheter les Occidentaux ou les gens. C'est une situation terrifiante. Le régime est capable de faire taire les gens. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'enfuir. Je pense que c'est une situation terrifiante.
Vous racontiez tout à l'heure qu'à votre sortie de prison, vous avez été abandonné de tous. Seule votre mère vous a ouvert la porte. Votre femme a demandé le divorce. Votre fille a refusé de vous voir. Vos amis ont disparu. À vrai dire, je vais vous dire, je trouve que c'est le moment le plus triste de votre témoignage, ça. C'est-à-dire que vous avez tenu en prison. On se demande comment un homme, un être humain tient devant tant d'horreurs. Mais vous avez tenu. Vous sortez, il n'y a plus personne. Le manque d'humanité face à laquelle vous vous êtes trouvé laisse vraiment, vraiment triste. Et je me demandais si vous avez compris cet abandon. Est-ce que cet abandon a été, justifié par la peur, par exemple ? Comment l'avez-vous interprété ?
Parce que c'est la société, c'est la réalité. Je comprenais.
Je pense qu'ils avaient eu beaucoup d'ennuis à cause de moi. Quand j'étais en prison, ma famille, ma femme, ma petite fille, tout le monde avait subi les conséquences. Ma fille était née quand j'étais en prison. Donc ma femme a subi beaucoup de pression. Je comprends tout à fait pourquoi elle voulait me quitter. Ouais, je comprends aussi mes amis, parce que j'étais prisonnier politique. Heureusement que mon maître m'a appris à jouer des instruments musicaux.
j'ai pu travailler, comme gagner ma vie comme un musicien. J'ai connu aussi beaucoup d'amis. Donc quand je pense à cette partie de ma vie, j'ai beaucoup de bons souvenirs.
Et d'ailleurs, vous avez amené avec vous un instrument de musique, Liao Yiwu, qui est un orque à pouce. J'ai lu que vous aviez appris la flûte, mais l'orque à pouce, est-ce que vous nous joueriez quelques notes de musique ?
Ok.
Merci beaucoup, Liao Yiwu. Vous parliez du regard de l'Occident sur la Chine aujourd'hui, en particulier du regard de l'Europe, voire de la France. L'écrivain Mo Yan, qui est l'un des écrivains chinois aujourd'hui les plus connus, a reçu le prix Nobel de littérature en 2012, c'est-à-dire l'année dernière. C'est un écrivain qui peut être contesté aussi en Chine. On en a entendu qu'il n'était pas pour la remise de ce prix, trouvant que Mo Yan était parfois trop complaisant avec le régime. Que pensez-vous de ce prix ? Que pensez-vous de cet écrivain ? Vous qui êtes plus proche d'un autre prix Nobel, mais de la paix cette fois, encore une fois emprisonné, qui est Liu Xiaobo.
Il y a deux ans, quand Liu Xiaobo a reçu le prix Nobel de paix, et plus tard, un an après, ils ont donné le prix Nobel à Mo Yan. C'est-à-dire, au début, ils ont donné le prix à un dissident. Et plus tard, Nobel a été donné à quelqu'un qui travaille avec le gouvernement chinois. Mo Yan pense qu'il n'y a pas d'écrivain, qu'il n'y a pas de prisonnier politique en prison chinoise. Après avoir reçu le prix Nobel de littérature, Mo Yan a reçu une lettre de félicitations de la part du Parti communiste. Lors de la cérémonie, je suis allée à Stockholm avec un ami. Mon ami était très en colère, il était indigné. Sur Internet, j'ai reçu un message de Ai Weiwei, l'artiste dissident chinois. Il m'a dit, Liao Yiwu, il faut que tu protestes pour nous. Donc, je suis allée à Stockholm parce que le prix que Mo Yan a reçu, le fait qu'on donne le prix à Mo Yan, c'est comme si on donne le prix Nobel au Parti communiste chinois. J'étais là pour protester et je proteste contre la victoire du Parti communiste sur la scène internationale.
Liao Yiwu, avant d'entrer en prison, il y a maintenant plus de 20 ans, vous aviez les cheveux longs, vous étiez comme un beatnik, je disais tout à l'heure, vous aviez les cheveux longs et une barbe aussi que les policiers ont soigneusement, c'est pas le bon mot, mais rasé et coupé. Vous en êtes sorti maintenant, il y a 20 ans, de ces prisons. Et vous dites pourtant que vous continuez à vous raser la tête depuis votre sortie de prison. Et d'ailleurs, votre ami Liu Xiaobo vous appelle « mon vieil ami à la tête chauve ». Vous n'avez pas eu envie, au contraire, de faire repousser vos cheveux ? Pourquoi continuez-vous à vous raser la tête ?
Mais je pense que c'est une habitude, d'une bonne habitude, grâce à mes expériences en prison, parce que c'est plus propre. On peut se laver facilement la tête tous les jours. Donc, c'est une habitude très saine que j'ai appris en prison.
Merci
très
beaucoup.
Hygiène.
Merci, vous êtes très hygiénique. Oui, merci beaucoup. Lao Liao Yiwu, et merci à vous, Yayang Chang, d'être venu interpréter ces propos. Merci beaucoup, Marie Holzmann. Dans l'Empire des Ténèbres, c'est un livre que Pékin voulait brûler. C'est en tous les cas le bandeau rouge qu'on peut lire sur cette couverture du livre de Liao Yiwu, édité par François Bourin, éditeur, et traduit par Marie Holzmann, Gao Yun et Marc Renbourg. Un immense merci pour le livre, pour ce témoignage, pour votre force et pour votre courage. Merci, Yao Yiwu.
De Yongqi.
Merci.